Bienvenue à chacune et chacun. La veille du baptême du Seigneur, les cieux se déchirent et entend cette voix qui vient du ciel et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance, le Fils bien-aimé que j'aime infiniment. » Voilà la révélation la plus importante que le Père fait. Si vous pensez qu'à ce moment-là où le ciel se déchire, voilà qu'il y a une révélation du Père et que c'est la révélation première et fondamentale que le Père nous donne. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Tout l'amour du Père est dans le Fils. C'est la première théophanie que l'on voit. Et puis il y a une deuxième théophanie, ce qu'on appelle une manifestation de Dieu. C'est sur le mont Tabor. Voilà que les cieux se déchirent aussi, qu'une voix se fait entendre venant du ciel. Et c'est la même parole au départ. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Alors ça, c'est la même parole. Le Père, il dit toujours la même chose. « C'est mon Fils bien-aimé. » Et puis, cette fois-ci, il ne dit pas « C'est lui en qui j'ai mis toute ma complaisance, tout mon amour. » Il nous révèle donc à travers ça le Fils et l'identité même de Dieu qui est amour. Dans la deuxième théophanie, il nous dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Écoutez-le, écoutez-le. Il a quelque chose à vous dire. Il nous montre le Christ comme étant le docteur, notre maître, notre Seigneur. Pour écouter le Fils bien-aimé, il faut savoir que tout l'amour du Père est en lui. Et parce que tout l'amour du Père est en lui, alors on peut commencer à écouter ce qu'il nous dit. Ce qu'il va nous dire, c'est de l'ordre de l'amour même du Père. Et c'est cet amour même du Père qui va nous faire découvrir notre dignité d'enfant de Dieu. Voilà. Alors tout cela, c'est la grande révélation finalement de la grâce de Dieu qui nous est donnée. Les jours se succèdent, il y a quelque chose qui pénètre le temps de chaque instant. Eh bien, c'est la vie éternelle. Monseigneur Faure, l'évêque de Perpignan, qui avait dit au synode des évêques sur l'Europe, à Rome, il a fait une intervention sur la vie éternelle, source du dynamisme spirituel pour l'Europe. En disant, nous gardons un trop grand silence sur notre intense désir de voir enfin le Christ face à face, de connaître tel qu'il est. Nous sommes d'une trop grande discrétion dans l'affirmation de notre confiance en sa promesse de nous conduire au bonheur éternel en nous faisant participer à sa gloire dans la maison du Père où il nous a préparé une place. Les conséquences, dit-il, de cette discrétion et de ce silence sont nettement plus graves que tout ce qu'on a pu envisager et ce qu'on a pu voir habituellement. Dans cette condition humaine qui est coupée de cette dimension de la vie éternelle, eh bien, dit-il, les échecs deviennent pathétiques, les épreuves et les souffrances dramatiques, la mort insupportable et révoltante. C'est vrai que s'il n'y a pas cet éclairage de la vie éternelle sur notre vie, eh bien, notre monde est fermé à ce monde-ci, et tout échec, tout non-réussite dans ce monde devient une catastrophe. Alors que s'il y a la perspective de la vie éternelle, eh bien, l'épreuve de ce monde, les échecs de ce monde, les difficultés de ce monde jusqu'à la mort elle-même prennent une perspective tout autre. Elles sont lancées dans cette perspective de la vie éternelle et tout est transfiguré par ce regard-là. La mort n'a plus le dernier mot. C'est la vie éternelle qui est le dernier mot. Il disait finalement, devant cette catastrophe, bien, on prie aussi les chrétiens de tout sens. Il dit par exemple, insupportable, la mort est cependant incontournable. On ne peut alors que la masquer, la cacher. Dans le désarroi ainsi créé, les uns s'épuisent dans un interminable acharnement à prolonger la vie. D'autres cherchent une issue dans l'espoir d'une réincarnation. D'autres enfin choisissent d'en terminer comme ça. Il n'y a plus rien, il n'y a plus la perspective de la vie éternelle. Bien, la vie n'a plus de sens, n'a plus rien du tout. Et il disait, la liturgie elle-même nous fait déjà goûter par anticipation la vie éternelle. L'office, la célébration de la liturgie nous fait pénétrer déjà dans le ciel. Ce qu'on prie à l'office des Verbes, ce qu'on célèbre à la messe, eh bien c'est le ciel qui célèbre ça. Les anges, les saints au ciel chantent cette liturgie et nous sur la terre on essaye de s'unir tant bien que mal comme on peut à cette liturgie céleste. Alors il faut absolument se laisser émouvoir de nouveau et recentrer notre vie sur la vie éternelle. À Noël, qu'est-ce qui se passe? L'éternité vient pénétrer notre temps, vient saisir notre temps, vient saisir la chair de l'homme et le temps de l'humanité. Et c'est assez merveilleux de voir que ce temps où l'éternité pénètre le temps de l'homme, la chair de l'homme, eh bien, est un temps bien déterminé dans la liturgie elle-même. C'est le 24 décembre à minuit. Voilà, la liturgie nous donne un moment précis où l'éternité pénètre le temps. Il y a un autre moment où le temps rentre dans l'éternité. Et ce temps-là, il est dans une espèce de flou. C'est quelque part, après l'équinoxe de printemps, après la pleine lune, dans la nuit, on ne sait pas très bien quand. Le temps de Pâques, vous avez compris que c'est le temps de la résurrection, le moment où le temps rentre dans l'éternité, où la chair de l'homme rentre dans l'éternité de Dieu, le temps de la résurrection, le temps nouveau, eh bien ce temps reste dans un flou. Il y a un mystère qui englobe ce moment-là. Quand nous nous laissons saisir par le Christ, Il y a un moment où on fait la rencontre du Christ, mais ce temps où nous nous rentrons dans la vie éternelle, nous pénétrons la vie éternelle, reste quelque part caché à nos yeux aussi, reste dans un certain mystère.